du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Nous sommes aujourd'hui premier dimanche de carême. En ce premier dimanche de carême, chaque année, l'Église orthodoxe fête ce que l'on appelle le triomphe de l'orthodoxie. Ça signifie que l'on fait mémoire du 7e concile œcuménique en 787, qui a proclamé l'icône comme étant l'expression majeure de toute la foi orthodoxe. Mais quand nous parlons de foi orthodoxe, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes fondés sur des dogmes, et le dogme ne signifie pas ici avant tout quelque chose à croire, mais une juste vision. Ce que prétend l'Église du premier millénaire, parce que je dois rappeler ici que toute l'Église confesse les sept conciles œcuméniques au premier millénaire, il n'y a pas l'Église catholique d'un côté, l'Église orthodoxe de l'autre, l'Église protestante n'étant pas encore là, il y a l'Église. Et l'Église s'est ajustée sur le fait d'avoir formalisé la foi. Non pas que la foi fût élaborée au cours des siècles, ce serait trahir l'esprit des apôtres, mais l'Église a toujours eu foi dans la seule vérité, qui est d'une part la reconnaissance de Dieu en trois personnes, avec toute l'émergence de cette dimension tout à fait nouvelle de la personne, et deuxièmement, le fait que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Ce sont là les fondements. Et ces fondements se situent comme une juste vision. Et nous avons entendu dans l'Épître aux Hébreux combien ont donné la vie pour cette juste vision. Par exemple, aujourd'hui, les moines du Mont Athos sont dans le fait de la fidélité et de garder et d'être vigilant pour que cette juste vision soit sauvegardée. Pourquoi est-ce si important de garder une juste vision? Parce qu'elle est une boussole. Et nous avons besoin pour marcher d'une boussole, c'est-à-dire d'une orientation qui nous permette d'être bien orienté dans notre vie et donc de pouvoir marcher sur un chemin sûr, fiable. Que nous arrivions à marcher d'une manière droite est autre chose, mais au moins que nous ayons un repère, un axe et un fondamental sur lequel on puisse s'appuyer. Et de fait, parce qu'il y a cette juste vision, il y a une spiritualité ajustée, et c'est important d'avoir une précision dans la finalité, dans le but, parce que, avant tout, il faut connaître le but vers où on marche, et ensuite, eh bien, nous marchons chacun à notre rythme, avec nos difficultés certainement, avec aussi nos errances, mais au moins, il est important d'avoir clairement dans le cœur et dans la tête l'axe dans lequel nous devons vivre. Ainsi, cela souligne le fait de l'acquisition d'une juste vision. À ce point de vue, je voudrais vous lire une citation de Saint Jean de Chrysostome qui dit, je cite, « Quelle est la force de l'homme ? Ce n'est pas l'argent comme si tu devais craindre la pauvreté, ce n'est pas la liberté de sorte que tu devrais fuir l'esclavage. C'est le soin, la force de l'homme, c'est le soin qui est mis pour acquérir une juste vision de ce qu'est la vie et la droiture pour se conduire en conséquence. » Donc vous voyez, tout est situé dans cette perspective de la juste vision. Et il dit ensuite, « Celui qui a foi en Dieu et trouve en lui son soutien, voit le monde d'une façon juste et a une perception juste de la réalité. » Perception juste de la réalité. La foi apparaît ici, toujours Saint Jean Chrysostome, hein, la foi apparaît ici non pas d'abord comme une croyance, non pas d'abord comme une croyance dans les enseignements de l'Église, mais bien comme la juste vision de la réalité. Donc juste vision pour s'ajuster à la réalité telle qu'elle est. Il est bien dit dans l'apôtre Jean, dans son épître, que nous lui deviendrons semblables parce que nous verrons la réalité telle qu'elle est. Donc, le grand axe, c'est s'ajuster à la réalité telle qu'elle est, s'ajuster au réel dans la réalité. Le réel dans la réalité, c'est Dieu. Donc, s'ajuster à Dieu, s'ajuster au réel, s'ajuster à la réalité, c'est la même chose. Donc, tout le chemin consiste dans un ajustement à ce qui est. Ça veut dire sortir des illusions et ça veut dire sortir des fausses représentations. On peut ici introduire ce qui est marqué dans le livre de la Genèse à propos de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance. On peut se demander pourquoi l'arbre de la connaissance était interdit à Adam. Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres, pas de celui-là, pas de l'arbre de la connaissance. Et donc ça pose la question de la connaissance, de la vraie connaissance ou vraie gnose et de la fausse gnose. C'est quoi la vraie gnose? C'est quoi la fausse gnose? Eh bien la différence, c'est entre connaissance et savoir. Dans la vraie gnose, il y a connaissance par participation. Ça signifie quoi? Ça signifie que je connais l'autre au fur et à mesure que j'entre en relation avec l'autre, et en entrant en relation avec l'autre, j'apprends à connaître l'autre, mais en même temps, l'autre est un mystère qui m'échappe tout le temps. L'autre est un mystère qui m'échappe toujours. Donc j'ai une connaissance relative, mais une connaissance vivante par l'interrelation que je vis avec l'autre. Alors que la fausse gnose, c'est un savoir au sujet d'eux qui ne vit pas la rencontre avec. Donc par exemple, je peux lire un CV de quelqu'un, ou je peux lire un roman au propos de quelqu'un, j'aurai une certaine idée de ce qu'est cette personne-là, mais je ne la connaîtrai pas, et donc je me ferai une idée. Une idée, ça veut dire une représentation. Une idée, ça veut dire que je ferai de l'autre une idole. Soit une idole positive, soit une idole négative. Et maintenant, je vais vous citer quelqu'un d'autre qui s'appelle Anselm Grün, le père Anselm Grün Benedictin. Il dit « Nous voyons l'autre d'après l'idée que nous nous faisons de lui. Si nous le portons au ciel, nous trouvons que ses actions les plus stupides sont merveilleuses, exceptionnelles, extraordinaires. Si au contraire, nous le regardons avec les lunettes de notre colère ou de notre déception, il sera alors antipathique, écœurant, faible, intrigant, hypocrite. Il en résulte que pour vivre en ce monde d'une façon juste, il est important de soumettre à examen nos représentations, dogmes, nos projections, et de nous faire une idée des choses et des personnes à la lumière de Dieu. » Donc, vous voyez ici la grande question, c'est notre regard. Est-ce qu'il est ajusté à la relation avec Dieu et à la présence de Dieu, ou bien est-ce qu'il est ajusté au monde ? La juste vision est celle qui est dans l'ajustement à la réalité divine. Si c'est le cas, alors nous voyons l'autre comme porteur de la présence. Nous voyons l'autre comme porteur de la présence. Si nous voyons l'autre comme porteur de la présence, alors nous ne pouvons pas atteindre à la dignité de l'autre, c'est-à-dire à la dignité qu'est la présence de Dieu dans l'autre. Donc, de ce point de vue, il est impossible, si nous voyons l'autre en Dieu et Dieu dans l'autre, de porter atteinte à l'autre et pire, de le tuer. Par contre, si nous le voyons en dehors de Dieu, nous pouvons voir comme un rival, comme un concurrent, comme quelqu'un qui est gênant et pouvoir l'éliminer. Et nous avons la guerre. Et donc, ici, nous devons être attentif au fait de toujours faire l'effort d'ajuster notre vision intérieure, que cette vision soit enracinée dans le plus profond de notre être, pour qu'elle soit une vision en Dieu. Et si nous voyons l'autre dans cette vision, Nous voyons ses qualités, nous voyons ses richesses, nous voyons ses potentialités. Nous pouvons voir aussi ses limites. Mais dans un rapport où il s'agit plus de prier pour l'autre que de blâmer l'autre. Ainsi, quand nous voyons quelque chose qui ne va pas chez l'autre, ça doit être pour nous une occasion de prière et non pas une occasion de jugement ou de blâme de l'autre. Et nous voyons ici que la juste vision est fondamentale. Et c'est pour ça que ce que nous soulevons ici en ce dimanche de l'orthodoxie, c'est l'importance d'une juste vision et que tout le chemin consiste à affiner sa juste vision sur l'autre, mais combien d'abord sur nous-mêmes. Parce que si tout va bien, nous avons tendance à nous exalter et tout d'un coup, on a les chevilles qui enflent et on ne se sent plus dans le fait qu'on se sent au-dessus des autres. Et puis si on est en échec, bah, tout d'un coup, on s'effondre et on est moins que rien et on est plus nul que les autres. Vous voyez, ça, ce sont les mouvements cyclochimiques ou, comme on dit, bipolaires de l'ego. Mais en fait, nous pouvons vivre avec, effectivement, des choses que nous réussissons et rendons grâce à Dieu pour cela. Et puis des échecs, ça signifie justement que nous n'étions pas ajustés à nous-mêmes, ni ajustés aux événements, ni ajustés à l'autre. Et donc la grande question, c'est bien la question de l'ajustement. Donc quand arrive une épreuve et que nous sommes déstabilisés dans cette épreuve, alors il y a l'épreuve, mais nous pouvons regarder en premier en quoi nous n'étions pas ajustés à nous-mêmes, en quoi nous n'étions pas ajustés à Dieu, en quoi nous n'étions pas ajustés à la situation. Ce qui ne nous amène pas à un jugement, mais qui nous amène à une correction. Et donc ici, il ne s'agit pas de se culpabiliser de ne pas avoir été ajusté, il s'agit de rectifier les erreurs. Nous sommes dans une dynamique positive. Vous sentez bien la différence. Et donc, le jugement, c'est une plaie. Le jugement, c'est quelque chose qui va venir nous détruire intérieurement. La culpabilité est un jugement. Et au lieu de se juger, il s'agit de rectifier et de s'ajuster. C'est pourquoi ce que nous appelons la foi orthodoxe, c'est toute cette dynamique d'ajustement intérieur, ajustement à Dieu, ajustement à soi-même, ajustement à la réalité, ajustement au réel. Toujours s'ajuster. Nous ne promettons pas d'être des êtres justes, mais d'être en dynamique d'ajustement. Vous sentez que ce n'est pas la même chose. Voilà. Et donc si nous vivons le dogme de cette manière-là, en disant, voilà, il y a un phare, ou en tout cas une boussole, et ça nous donne orientation, et ça nous permet d'avoir un repère pour nous ajuster, nous voyons combien spirituellement le dogme est une aide. Mais si, comme le dit Saint Jean Chrysostome, nous pensons que c'est une croyance, alors nous faisons erreur. Ça ne doit pas être une croyance, ça doit être une dimension de foi, c'est-à-dire d'enracinement. Foi égale enracinement. De ce point de vue, il est important que nous puissions effectivement vivre une rectitude intérieure, et ensuite il nous reste une deuxième étape, c'est marcher dans cette rectitude. Mais dans cette rectitude, il ne s'agit pas de se blâmer ou de se condamner, ou de blâmer l'autre ou de condamner l'autre, il s'agit de s'ajuster intérieurement. Et si nous marchons dans ce chemin, alors nous allons aller vers l'éclosion de la présence divine en nous. A contrario, c'est quoi le fait de dévier par rapport à la foi juste ? Eh bien, la déviation par rapport à la foi juste, c'est l'idolâtrie. Quelle est la plus grande représentation de l'idolâtrie ? C'est l'idéologie. L'idéologie, plusieurs dizaines de millions de morts au XXIe siècle, plusieurs dizaines de milliers de morts déjà au XXIe siècle. Nous voyons aujourd'hui, et je dirais juste quelques mots là-dessus, que ce qui se passe en Ukraine est le fruit d'une idéologie politique, la nostalgie de la Rousse. La Rousse, c'est la Grande Russie. La Grande Russie est née à Kiev. Les Russes ne supportent pas que Kiev ne fasse pas partie du giron de Moscou. Voilà l'idéologie. Au nom de cette idéologie, Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. C'est des milliers de morts, ce sont des maisons détruites, ce sont des infrastructures détruites, ce sont des enfants qui meurent. C'est l'insupportable au nom de l'idéologie qui est la déviation totale par rapport à l'axe. On ne peut pas comprendre comment le patriarche Kirill puisse cautionner cela. Comment, au jour de l'orthodoxie aujourd'hui, on puisse cautionner cela. C'est insupportable. Je ne peux pas me retenir de le dire. Parce qu'on doit dénoncer cela. Qu'un politique soit dans une telle déviation est une chose. Qu'un homme d'église, chef d'église, puisse l'être est un scandale. Même Mgr Onuf, métropolite de Kiev, du patriarcat de Moscou, a dit du patriarche Kirill, vous êtes calme, vous tuez le frère. Donc, comment on peut voir Dieu et tuer le frère? C'est inacceptable. Aussi, prions pour que ce qui a conduit M. Poutine à envahir l'Ukraine au nom de la réintégration du peuple ukrainien, comment faire la guerre en pensant vouloir réintégrer le peuple à qui on fait la guerre? Comment on peut faire la guerre en tant que représentant du patriarcat de Moscou contre des Ukrainiens qui sont du patriarcat de Moscou? C'est un scandale. Et donc, que l'Esprit Saint vienne, inspire le patriarche Kirill, inspire aussi Vladimir Poutine. Et on peut dire ici que déjà, M. Poutine a perdu spirituellement, psychologiquement et moralement la guerre. Et donc, nous ne pouvons ici prier que pour qu'il soit pénétré de l'humilité intérieure, reconnaisse ses erreurs, pour éviter qu'il y ait encore des milliers de morts supplémentaires. Voilà, prions, parce que je crois qu'on pensait avoir, pendant le XXe siècle, pris des leçons suffisantes pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Malheureusement, au XXIe siècle, nous reproduisons ces mêmes erreurs. Et tout ce que nous pouvons espérer maintenant, c'est un sursaut de conscience de toute l'humanité. C'est notre seul salut, parce que nous ne sommes pas uniquement dans le péril de la guerre en Ukraine, à nos portes, mais nous sommes dans le péril d'avoir bafoué le vivant. Comment pensons-nous pouvoir vivre sans le vivant ou en détruisant l'univers du vivant? Et donc, je crois que ça précipite, finalement, involontairement, M. Poutine précipite les Européens vers la conscience de la vulnérabilité énergétique, vers la conscience d'une vulnérabilité aussi au niveau de la défense, et que nous voyons ici que nous sommes face à des défis immenses, et seul un sursaut de fraternité, un sursaut de coopération et un sursaut d'humanité pourra nous permettre de passer ces différentes épreuves. Espérons que cette guerre effroyable soit pour les humains l'occasion d'un sursaut d'humanité, d'un sursaut de conscience, pour qu'on bascule dans une nouvelle ère qui sera une ère de fraternité, de coopération et une ère de réconciliation avec le vivant et une ère de fraternisation de toute l'humanité. Voilà, pure en gloire de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit.
Amen.